Voilà, je vous invite à ouvrir sans plus tarder maintenant la parole de Dieu dans l'évangile de Jean et au chapitre 17, à partir du verset 9. Jean 17, verset 9. C'est pour eux que je te prie, c'est Jésus qui prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite, et je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Amen. Nous nous arrêtons là. À deux reprises, Jésus va répéter quasiment les mêmes choses. Il va dire, ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Juste après, il va dire, ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, ça me concerne, ça vous concerne. Est-ce qu'il y a des personnes cet après-midi qui ont cru en Jésus-Christ, en son enseignement selon la parole de Dieu? Ça va? Il y a des candidats? Bon. Ça veut dire que nous avons cru et que cette prière nous concerne. Jésus a toujours été exaucé. Toutes ses prières ont été exaucées, c'est pas vrai? Ça veut dire que du côté de Dieu, c'est fait. Jésus a prié le Père, il a dit, voilà, je te prie non pas de les ôter du monde, même s'ils ne sont pas du monde, mais de les préserver du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être sûr que du côté de Dieu, tout sera fait pour que nous soyons préservés du mal. Quelle bonne nouvelle! J'ai pas à craindre le diable. Jésus a déjà prié pour que je sois préservé. J'ai pas à craindre les difficultés, tout le péché d'autrui. Le Seigneur a dit qu'il me garderait, qu'il me préserverait. Je n'ai pas à vivre dans la peur. Je peux vivre dans la sécurité, dans cette paix que Jésus laisse, que Jésus donne, et il la donne, non pas comme le monde donne. Amen. C'est sa paix. Mais j'insisterai cet après-midi sur ce que j'ai insisté aussi ce matin, c'est le fait que nous ne sommes pas du monde. Et mon père dit souvent, on a les pieds sur la terre, la tête sur les épaules, mais le cœur dans le ciel. Je répète, les pieds sur la terre, la tête sur les épaules et le cœur dans le ciel. On vit sur la terre. Même si je saute très haut et je serais le meilleur sauteur, je ne sais pas comment on dit, le jumper, je ne sais pas comment le dire, si je sautais le plus haut de la terre, je redescendrais, puisqu'il y a une attraction. On vit sur la terre. Par contre, on a la tête sur nos épaules. On n'est pas des fanatiques, on n'est pas des illuminés, on a la tête sur l'épaule. Mais notre cœur, lui, il est dans le ciel. Il est dans le ciel. Et j'ai voulu vous exposer, selon ce que Dieu m'a mis à cœur, je crois, aujourd'hui, cette preuve que nous sommes des êtres appartenant au ciel et plus appartenant à la terre. Vous croyez ça? Que votre destinée, toutes sortes de choses sont dans le ciel et plus sur la terre pour nous. Notre espérance, notre éternité, elle ne va pas se passer sur la terre, elle va se passer dans le ciel. Et même si pendant 1000 ans on va revenir, on repartira pour un endroit bien meilleur. C'est ce que Jésus a promis et c'est ce qu'il nous est expliqué dans l'Apocalypse. La première chose que j'ai fait remarquer ce matin, c'est que nous sommes du ciel parce que notre nom est inscrit dans le ciel. Est-ce que votre nom est inscrit dans le ciel? Très important. On a vu que c'était aussi important, même plus important, pardon, que le fait d'avoir son nom inscrit sur la liste de ceux qui ont réussi leur bac. Vous avez déjà passé un examen? Voilà. Et on a vu ce matin que quelle joie d'arriver devant la liste le jour J, le jour des résultats, et de voir notre nom inscrit sur la liste de ceux qui ont réussi l'examen. Et si ça y est pas, ça veut dire qu'on a échoué. Et je faisais ce parallèle. Si notre nom n'est pas inscrit sur le livre de vie, dans le ciel, ça veut dire qu'on a échoué notre vie. Et si notre nom est inscrit, ça veut dire qu'on a réussi notre vie. Et comment savoir si mon nom est vraiment inscrit dans le ciel? Parce qu'on peut le croire, mais est-ce que ça y est vraiment? Quelle est la preuve? J'ai déjà la facture de l'achat de ma place. J'ai déjà l'écrit, le bulletin, le ticket, eh bien pour m'envoyer, pour m'en aller, pardon, dans le ciel. Ma place m'est réservée, j'en ai une preuve sur la terre. Quel est cet écrit ? Une lettre que je ferai moi-même ? Non, c'est la parole de Dieu. La parole est l'écrit qui me prouve que mon nom est inscrit ou pas, puisqu'elle me dit comment est-ce que mon nom peut être inscrit. Deuxième point que nous avions vu, c'était que les bénédictions que nous recevons, et nous en avons, nous, en tant que chrétiens, elles viennent du ciel, elles viennent d'en haut. Nous avons lu Éphésiens chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. » Amen. Nous sommes bénis dans le lieu céleste, en Christ. Et nous recevons de ces bénédictions, non seulement dans le ciel, mais déjà sur la terre. Et on a fait toute une énumération de ce que le Seigneur, eh bien, nous bénit, nous accorde sur cette terre. Troisièmement, nous avions vu au verset 11 de ce même chapitre du même livre qu'il est parlé d'héritage. Nous avons un héritage dans le ciel. Waouh. On pourrait, j'aime pas dire allez, amen, 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 j'aime pas, mais on pourrait tous dire un grand alléluia, gloire à Dieu, parce que l'héritage de Dieu, il est grand. Je ne sais pas quel héritage vous attendez de vos parents ou quel héritage vous laisserez à vos enfants, mais celui de Dieu, celui de Jésus-Christ, il est immense. Tout à l'heure, j'ai un peu lu ce qui nous attendait dans le ciel et je crois que ça va être merveilleux. Vous croyez à la vie éternelle qui commence ici-bas mais qui se poursuivra dans le ciel ? Qui croit au ciel ? Qui croit à l'enfer aussi ? C'est aussi biblique. Mais moi, je crois au ciel. Je crois que là-haut, il n'y aura plus tout ce qu'on vit sur la terre. Vous savez, les factures, l'électricité, il n'y en aura plus besoin puisque la lampe sera allumée continuellement. Ça sera Dieu qui nous éclairera, etc. Toutes sortes de désagréments qu'on n'aura plus sur la terre. Délivrés même de la présence du péché. Et ça, c'est l'une des plus grandes bénédictions. On a un héritage dans le ciel. Dieu est riche. Et on a vu qu'une part de cet héritage nous est déjà donnée sur la terre. Qui peut me rappeler ce que c'est ? Le Saint-Esprit. Il est dit que déjà on a les arts de cet héritage, le gage de cet héritage, les arts de l'Esprit. Et qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, on peut goûter à la plénitude, être rempli, baptisé dans le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Hein ? Moi je crois. Je crois. Et on a vu un peu quelques grâces qui nous sont accordées en même temps que nous sommes remplis du Saint-Esprit. À quoi sert le Saint-Esprit sur la terre ? À nous conduire dans toute la vérité. Je crois qu'il nous console aussi, certes. Mais je crois aussi qu'il nous rend sensibles aux choses spirituelles et aux choses célestes. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous ouvrir les yeux, ouvrir le cœur, ouvrir la foi sur les choses spirituelles et sur les choses célestes. On peut d'un coup savoir par l'Esprit que quelqu'un est prêt à vivre un miracle. Paul, par l'Esprit, a vu que quelqu'un avait la foi pour être guéri. Vous l'avez lu ? Vous pouvez le relire, c'est dans Actes. Paul, à un moment, prêche, il voit dans l'auditoire quelqu'un qui a la foi. Comment il l'a su ? C'est pas humain. Il avait l'Esprit de Dieu en lui, qui l'a rendu sensible à la foi spirituelle, à quelque chose de spirituel chez cet homme, et à la volonté de Dieu de guérir cet homme à ce moment-là. Une volonté céleste qui lui a été révélée sur la terre. Le Saint-Esprit d'un coup nous éclaire aussi sur le fait que Dieu est là. Et il nous manifeste la présence de Dieu ici, dans ce lieu. Si on se rassemble au nom de Jésus-Christ, Dieu est ici. Quelqu'un dira, Dieu est omniprésent, il est partout. On est d'accord avec ça. Où que j'aille, le psalmiste va dire que j'aille dans le séjour des morts, que j'aille en haut d'une montagne, au fin fond de la mer. Où que j'aille, tu y es. Mais Dieu n'est pas omni-manifeste, c'est-à-dire qu'il ne se manifeste pas partout. On ne remarque pas sa présence de partout. On ne peut pas ressentir, voir, goûter à sa présence tout le temps et de partout parce qu'il faut que l'Esprit de Dieu agisse pour que d'un coup on soit conscient de sa présence. Il faut que l'Esprit nous convainc de la présence de Dieu. Et Dieu veut se manifester partout où on l'invoque. Que son nom soit béni de nous faire ce privilège. Le quatrième point qu'on avait vu, c'est que notre position en tant qu'enfant de Dieu, elle est déjà dans le ciel. On a lu Éphésiens chapitre 2, verset 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Et juste après, il nous dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvés, mais pour des œuvres que nous devons pratiquer pour lui. Et Dieu, il nous est dit dans ce point-là que nous sommes déjà positionnés dans le ciel. Et cette position, assis dans le lieu céleste, avec Christ, nous parle d'une autorité et d'une supériorité. Non pas pour écraser les autres, mais pour leur montrer une différence. Et je prenais cet exemple, si on est sur la lune et qu'il y a un tremblement de terre, ça ne nous fait pas grand-chose. S'il y a un tremblement de lune, oui, mais pas un tremblement de terre. Parce qu'on est élevé, on est loin de la terre. Et si jamais il y a la crise dans ce monde, si jamais on voit toutes ces choses se passer autour de nous, nous on sait par contre qu'on est dans une position supérieure et que Dieu ne connaît pas la crise. Lui, il ne la connaît pas. Lui, il est supérieur. Jésus, par son sang, nous a rachetés et nous sommes élevés avec lui. Et s'il y a un souci sur la terre, je peux être en paix parce que je sais que j'ai un Dieu tout-puissant qui pourra venir à mon secours, me garder. Et s'il me fait traverser quand même une épreuve, une douleur, une difficulté, je sais que c'est toujours pour en tirer du bon pour moi, mais aussi pour d'autres, afin que je sois un témoin et que ça leur serve de témoignage. Amen. Ça, c'est les quatre points que nous avons vus. Nous avons vu dans le quatrième deux aspects. Nous n'avons rien à craindre, nous sommes en haut, mais aussi nous avons tout à faire. Montrons l'exemple. Deux choses. Cinquième point. Nous commençons donc maintenant, cet après-midi, Philippiens chapitre 3 et verset 20. Prenez-le avec moi. Mais notre cité à nous est sur la terre, à Toulouse-Saint-Agne. Non, c'est où? Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Amen. Notre cité à nous est dans les cieux. Amen. Qui croit que sa cité à lui est dans le ciel et pas ici-bas? On n'est pas des Toulousains. On n'est que de voyage à Toulouse. Notre vraie cité... Comment on dit des Jérusalémiens, la nouvelle Jérusalem, des enfants de Sion, comment on pourrait le dire, je ne sais pas. En tout cas, comment? Je vous laisse le dire pour moi. On est des habitants de cette cité céleste. Apocalypse chapitre 21. Vous voulez savoir comment elle sera la cité? Comment elle est la cité céleste? Super belle, c'est peu dire. Apocalypse, chapitre 21, verset 9. Puis un des sept anges, qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande ville, la Sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Attention, vous allez en prendre pour vos yeux. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes et à l'occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui que me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. Ça fait à peu près 2 000 kilomètres, il me semble. 2000 kilomètres de côté, une ville. La longueur, la largeur, la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, la place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y porteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Je voulais le lire, ce chapitre. J'en avais envie. Parce qu'à chaque fois que je le lis, j'ai hâte d'y aller. Je vois. Heureusement qu'il n'y a pas de voleurs là-haut. Hein. Vous avez vu tout l'or qu'il y a, tous les jaspes, les bijoutiers sur la terre, ils se font du souci. Mais là-haut, aucun voleur. D'ailleurs, aucun menteur. Aucun abominable. Que des personnes qui auront fait la paix avec Dieu, qui auront abandonné leurs péchés, comptant sur la grâce de Dieu pour les en délivrer. Et on voit que tout ça, c'est pour moi. C'est pour nous, c'est pour vous. Et je vous lis le texte que Jésus nous a laissé. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Amen. Vous voulez être où, vous? À quel étage? Parce qu'apparemment, ça va être haut. Hein, c'est comme un carré, même comme un cube. On ne comprend pas trop. Bref, ça, c'est pas grave. Ça sera merveilleux. Et on a une place qui est réservée quand on est en Jésus-Christ. Ça vous fait quoi? Ouais, c'est bien. Ou vous pensez que vous êtes privilégié? Moi, je crois que je suis privilégié. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Rien. Jésus a tout fait, a tout accompli. Si ça nous est donné gratuitement, on l'a bien compris avec ce qu'on le lit. C'est parce que c'est impossible de l'acheter, c'est trop cher. Alors Dieu, il a dit, allez, je vais te donner les places. Je vais te donner des places en offrant mon Fils. Et quiconque acceptera mon Fils comme Sauveur et comme Seigneur, alors il aura sa place de réserver dans le ciel. Moi, je crois que ça va être génial. Plus de poussière, plus besoin de passer aspirateur. Ce matin, je disais, mesdames, plus de minage. Et là, j'ai vu les dames. Il n'y a pas que les dames, il y a aussi les messieurs, certes. Mais ça va être merveilleux. Vous avez vu l'or pur, tellement pur, qui sera transparent. C'est incroyable. Quelque chose de fou, mais quelque chose de merveilleux. Et c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur cœur, comme Seigneur, comme Sauveur, mais aussi comme Maître de leur vie, comme Seigneur et comme Roi. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est la cinquième chose, cinquième preuve dans la Bible. Cinquième, oui, preuve que notre vie, en vrai, elle n'est pas ici-bas. Ce qu'on vit aujourd'hui, ça ressemble à rien par rapport à ce qu'on vivra là-haut, si on tient jusqu'au bout, par la foi. Et malgré tout, comme le dit ce chant, nos yeux verront Jésus, nos yeux verront cette ville. On a hâte d'y aller, hein? Voilà. Sixième preuve. Leurs pensées et leurs affections sont tournées vers le ciel. Les enfants de Dieu ont leurs pensées et leur cœur tournés vers le ciel. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est un beau trésor, non? Qu'est-ce que vous en pensez, ce qu'on a lu? Eh bien, nos cœurs, quand vraiment on réalise ces choses, ils se tournent vers ces choses, vers le ciel, vers le Seigneur. On le lit, Colossiens chapitre 3, verset 1er. Philippiens, Colossiens, chapitre 3, Colossiens 3, verset 1er. Les quatre premiers versets. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Je relis. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On a compris pourquoi, hein ? C'est bien meilleur là-haut. C'est beau, hein ? C'est beau, c'est merveilleux. Si on est sur la terre, pourquoi est-ce qu'on reste encore un peu sur la terre? Pourquoi on passe un peu de vie, notre vie sur la terre, alors qu'on va passer l'éternité là-bas? On voudrait peut-être dire, ben, Seigneur, prends-moi tout de suite, hein, sans souffrance, sans passer par la mort, enlève-moi, comme Élie, enlève-moi, et puis au moins je suis de suite dans le ciel. Pourquoi Dieu laisse des chrétiens sur la terre? La seule raison, c'est le témoignage. C'est la seule. Si, du moment, vous êtes d'accord avec moi, le brigand, il n'a pas eu le temps de se faire baptiser, il n'a pas eu le temps de faire des œuvres pour le Seigneur Jésus, il n'y avait rien d'autre. Il est parti d'ailleurs, il payait pour ses peines, lui. Il est mort juste après. Donc s'il fallait rester un long moment pour expier ses fautes par des bonnes œuvres sur la terre, le brigand ne serait pas sauvé. Or Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc pourquoi on est sur la terre? C'est pas pour expier nos fautes, c'est pas pour mériter le ciel, c'est pourquoi? Eh bien, c'est pour être des témoins. Parce que quand on est enfant de Dieu, on sait que Dieu prend soin de ses enfants. Il est un père bien meilleur que moi. J'ai 3 enfants et j'ai des défauts en tant que père. Mais Dieu, lui, il n'a aucun défaut. Et il prendra soin de nous. Et les gens, quand ils verront que quelqu'un prend soin de nous comme cela, il va dire « Ouh, je veux le même père ». Et même notre caractère, on va ressembler à notre père, vous savez. Des fois, on dit « Oh, il ressemble à son papa » ou alors à sa maman. Il y a toujours un des deux. Hein. En tout cas, puissions-nous ressembler à notre Père Céleste. Et avec l'amour qu'on manifestera aux autres, lui qui nous a aimés le premier, bien les gens seront peut-être touchés. En tout cas, ils réaliseront qu'il y a une différence. Peut-être seront-ils interpellés et peut-être réagiront-ils et donneront-ils eux-mêmes leur cœur au Seigneur. La seule raison de notre présence sur la terre, c'est le témoignage. Je rencontre beaucoup de papi et mamie parmi nous. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il attend le Seigneur? Il m'a oublié. Il ne vous a pas oublié. Mais il vous utilise. Vous priez pour moi. Eh bien, Dieu vous utilise, parce que j'ai besoin que vous priez pour moi. Vous priez les uns pour les autres. Quand même, peu importe notre âge, peu importe si on peut se lever, marcher, courir, c'est pas ça qui est important. On peut tous intercéder. On peut tous prier, ça c'est donné à tous. Et c'est peut-être la raison de notre présence sur la terre. Parce que Dieu veut qu'on prie. Et si quelqu'un fait cette tâche, il a une raison de vivre sur la terre. Peut-être que d'autres choses se rajoutent. Vous faites le ménage, personne ne le voit. Mais Dieu le voit, et la manière dont vous le faites le glorifie. Les anges le voient, les démons le voient, le diable voit votre état d'esprit dans lequel vous servez le Seigneur. Et c'est un témoignage pour le Seigneur Jésus. Amen. C'est une gloire qui monte jusqu'aux cieux, un témoignage qui monte, une adoration et une louange. On l'a vu, notre pensée, nos pensées, notre cœur est tourné vers le ciel. Si on est ressuscité avec Christ, que nos pensées soient tournées vers le ciel. Vous savez, sur la terre, il y aura toujours des sujets de se plaindre, des sujets d'être attristé, des sujets d'être déçu. Il y aura toujours, toujours, toujours ce genre de choses. C'est pour ça que le Seigneur il nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, « Levez les yeux au ciel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. À quoi est-ce qu'on pense? Ah, il ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Ou alors, ah, il ne m'appelle pas. » Et c'est vrai que pour une mamie, j'ai visité une mamie cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Semaine dernière, qui me dit, heureusement que j'ai la famille de Dieu. Ma famille, elle ne m'appelle jamais. Et qui pleurait parce que sa famille ne pensait à elle que quand il y avait un chèque. Hein, vous savez. Et j'ai dit, mais pensez au Seigneur. Présentez ce fardeau que vous avez dans votre cœur au Seigneur, bien sûr, mais pensez au Seigneur. Moi, je ne peux rien faire. On ne peut rien faire d'autre que de nous souvenir. Oui, il y a la famille de Dieu, vous venez de le dire. Tournez-vous vers la famille de Dieu et tournez-vous surtout vers le Seigneur qui, lui, ne vous abandonne pas. Et nous, on va tout faire pour vous entourer et vous accompagner dans ces moments de solitude, peut-être. Pensons d'ailleurs les uns aux autres. N'oublions pas de nous appeler les uns les autres, de nous visiter si nous le pouvons, avec sagesse, en demandant au Seigneur de nous conseiller dans nos échanges. Parce que quelquefois, nos échanges dérapent. Hein, que Dieu nous aide à garder nos pensées sur lui lorsque nous nous rassemblons ou nous visitons quelqu'un. Leurs pensées et leurs affections sont tournées sur le ciel et les choses du ciel et les choses de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Les choses matérielles ou les choses spirituelles? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Les choses matérielles ou les choses spirituelles? Voilà. Qu'on puisse tous faire le point et dire merci Seigneur pour les téléphones portables. Ça m'est arrivé aussi de le laisser allumer, on ne juge personne. Merci Seigneur pour toute la technologie qui nous facilite la vie, qui nous aide, la voiture qui nous transporte d'un endroit à l'autre. Merci pour le matériel Seigneur. Mais avant toute chose, ce qui doit être le plus important dans nos cœurs, c'est les vérités, les choses spirituelles. Amen. Pensons à toutes ces choses. Et septièmement, je conclue, leur espérance est vers le ciel. On l'a un peu vu avant, mais je conclue vraiment avec ça. Notre espérance, elle n'est pas dans les choses de la terre. Vous savez, le monde, un coup il va bien, un coup il va mal. Un coup ça remonte, un coup ça descend. Un coup il y a la crise, un coup il y a la spéculation, etc. etc. Vous savez, ça ne change pas. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a que des vagues, un coup ça va, un coup ça ne va pas, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Le monde est fluctuant. Le monde est soumis aux circonstances, à tout ce qui est autour de lui. Mais nous, nous avons quelqu'un qui est comme un rocher sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et sa parole est l'enseignement sur lequel nous pouvons construire aussi. Jésus est le roc, sa parole est le rocher. Il dit, celui qui met en pratique mes paroles, il est comme un sage qui bâtit sa maison sur le roc. Amen. Puissions-nous bâtir les choses sur le Seigneur Jésus parce que notre espérance se trouve uniquement dans le ciel et auprès de envers notre Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 1, verset 3, juste avant donc. Colossiens 1, 3. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Amen. Il est une espérance qui nous est réservée dans les cieux. Si je suis sauvé, c'est en espérance. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que le jour où je me suis donné au Seigneur Jésus, ça en a été fini des maladies? Je n'ai plus jamais été malade. Non. Il m'arrive encore d'attraper un rhume, surtout quand je ne mets pas un manteau alors qu'il fait froid. Vous êtes d'accord avec moi? Et même en prenant soin du corps, puisqu'il faut quand même un minimum de sagesse, même en prenant soin du corps, il peut m'arriver de tomber malade, d'être fatigué, etc. Je suis encore soumis aux lois de cette terre et aux conséquences du péché sur cette terre. Puisque c'est vrai que la maladie est venue en même temps que le péché, je crois. Parce qu'avant, dans le jardin d'Éden, on n'attrapait pas de rhume. C'est d'accord avec moi ? La maladie n'avait pas lieu. Mais depuis que l'homme a abandonné l'obéissance à Christ, à Dieu, eh bien il a laissé une porte ouverte à une dégénérescence physique. Le corps est devenu faillible. Et donc, eh bien, il peut tomber malade. Ça ne veut pas dire que si je suis malade, c'est que j'ai un péché caché que je n'ai pas réglé. C'est important de le dire aussi. Il faut rappeler que la maladie est entrée dans le monde, elle fait son effet maintenant, et que tous on est sujet à maladie, parce que personne n'est parfait. Et donc tous on est sujet à être malade. Mais ce n'est pas parce que je suis malade que j'ai un péché caché ou quelque chose à me reprocher. N'allons pas dire à l'autre, tiens, tu as un rhume qui passe pas. Qu'est-ce que tu as fait encore hier? Qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps? Ou qu'est-ce que tu n'as pas confessé? Non, c'est pas du tout ça. C'est simplement la preuve qu'on est encore sur la terre et qu'on est sauvé en espérance. Je le sais, j'en suis sûr, j'y crois. C'est effectif parce que Jésus a payé, tout est accompli, il l'a dit. Mais je verrai le plein effet de ma foi et de mon salut uniquement lorsque je verrai Jésus face à face, lorsqu'il viendra me chercher ou lorsque je quitterai cette terre. Voilà. Et c'est en espérance. Mon espoir est tourné vers le ciel. Mon espoir est tourné vers là-haut. Et le début du chapitre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1er, il était dit ceci. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et regardez la suite, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils, ma fille. Mais comme là-haut, il n'y a plus d'hommes et de femmes, on sera tous des fils. Voilà. Il sera mon enfant, à celui qui vaincra. C'est-à-dire à celui qui persévérera dans sa foi et qui comptera sur la grâce de Dieu, qui a commencé avec Jésus-Christ, mais qui continuera jusqu'au bout. Car on peut perdre ce que l'on a reçu. Notre espérance, elle est pour là-haut. Plus de deuil, plus de mort, plus de maladie, plus de tristesse. Qu'est-ce qu'il y avait, hein ? Toutes ces choses qu'on a lues, plus de douleur, car tout sera enlevé des premières choses et toutes choses deviendront et seront nouvellement formées et créées pour chacun d'entre nous. Ça vaut le coup de persévérer à travailler à notre salut. Puisque Dieu a dit lui-même, par la bouche encore de son apôtre, Paul, Jésus, a dit « Travaillez à votre salut ». Ça ne veut pas dire mériter, hein, on ne le méritera jamais. Mais travailler, c'est-à-dire persévérer, continuer. Si vous ne voyez pas les choses se faire de suite, persévérez, comptez sur la grâce de Dieu, méditez la parole, mettez-la en pratique, et vous verrez qu'au final, ça paye. Comprenez l'expression ? Ça vaut le coup. Il faut aller jusqu'au bout. Peut-être quelqu'un dira « Oh, mais c'est trop tard ». Je l'ai raconté la dernière fois, cette semaine, je crois, mardi dernier, l'histoire des deux grenouilles. Vous en souvenez ? Deux grenouilles tombent dans un pot. Un pot de crème. Les deux commencent à se débattre pour s'en sortir, mais aucun appui. Et au bout d'un moment, au bout d'un long moment, alors qu'elles persévèrent, qu'elles s'encouragent l'une l'autre, croient, elles avaient la foi, hein. L'une d'entre elles dit, c'en est fini, j'arrête. Je persévère plus, j'arrête. Et puis elle se laisse se noyer et elle meurt. Mais l'autre, elle persévère, elle continue, elle bat des jambes. Toute la force. Tant qu'elle a de la force, elle le fait. Et puis au bout d'un moment, la crème devint du beurre. Et elle trouva un appui pour ses pieds et elle put sortir du pot. Voilà. Ça, c'est pour vous rappeler qu'il faut toujours persévérer parce que notre espérance, elle est dans le ciel. Des choses extraordinaires. Je vous rappelle les 7 points. Je fais un petit résumé. Voilà. Notre nom est inscrit dans le ciel. Deuxièmement, les bénédictions dont nous jouissons aujourd'hui et qui nous sont réservées sont dans le ciel et viennent du ciel. Troisièmement, on a un héritage dans le ciel qui nous est déjà communiqué en partie sur la terre. Quatrièmement, notre position déjà, nous pouvons voir les problèmes avec un œil d'en haut, avec un regard élevé parce que nous sommes assis avec Christ dans le ciel. Cinquièmement, notre citoyenneté, notre cité est dans le ciel. Et vous savez que des villes ont payé très très cher pour avoir un pays ou une ville, la citoyenneté de cette ville. Et le mot que quelqu'un a utilisé, c'est le mot bourgeoisie, bourgeois. Parce qu'un bourgeois, c'est quelqu'un qui a réussi, qui est parti de rien et qui a réussi. D'ailleurs, ça crée des problèmes parce que les pauvres enviaient leur position et les riches n'étaient pas contents que des gens sortent de rien et deviennent eux-mêmes riches. Et nous étions pauvres, mais Jésus nous a enrichis, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et aujourd'hui, on est citoyen d'une cité qui vaut de l'or, qui est faite d'or. Sixièmement, nos pensées, notre cœur, nos affections doivent et peuvent être tournées vers le ciel. Septièmement, notre espérance n'est pas sur les choses d'ici-bas, dans les choses d'ici-bas, mais dans la valeur sûre qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, sa parole surtout. Et notre espérance est pour le ciel, car cette vie sur terre n'est qu'un passage fait pour que nous nous préparions à rencontrer Dieu et que nous soyons les témoins afin d'aider d'autres à se préparer à leur tour. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je conclue avec la fin du chapitre 17 du livre de Jean, au verset 24. Père, la prière de Jésus. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a prié pour qu'on soit avec lui dans le ciel. Et si nous acceptons sa prière, si nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur, nous pouvons être sûrs que si nous persévérons dans cette foi, nous avons notre place acquise là-haut dans le ciel. Pourquoi donc se mettre en peine, comme le dira un chant ? Amen. Merci Père de nous rappeler ces choses, de nous rappeler combien tu as été bon envers nous, combien tu nous as acquis toutes sortes de richesses pour notre bonheur, pour notre espérance, pour que notre foi soit bâtie sur des choses sûres, sur ta parole. Seigneur, merci de nous avoir révélé ces choses. Seigneur, quelle folie, Seigneur, pour les hommes de croire en une autre terre, d'autres cieux, une nouvelle ville. Mais nous croyons. Nous préférons être fous selon ce monde, mais sages selon toi. Et nous voulons être comme des enfants, acceptant simplement ta parole. Tu nous prouves encore que nous avons raison par toutes sortes d'expériences que nous vivons jour après jour auprès de toi, Seigneur, que ta vie découle abondamment en nous et que dès aujourd'hui, dès cette terre, dès notre séjour ici-bas, nous puissions goûter les arts de l'héritage qui nous est réservé et que nous soyons utiles, nous aussi, par notre témoignage, par ce que tu nous feras vivre, eh bien, à être des témoins, pour être des témoins, afin que d'autres soient jaloux, se tournent vers toi et acquièrent pour leur part aussi ce salut que tu nous as déjà obtenu par la croix, par ton corps, par ton sang qui a coulé, Seigneur. Merci encore parce que tu es ressuscité, tu es dans le ciel et tu continues à prier pour nous, à intercéder en notre faveur et on sait que tu es toujours exaucé. Alors Seigneur, notre cœur est en paix, nous choisissons de te faire confiance, que ta volonté s'accomplisse dans notre vie et nous nous appliquons à pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance. Conduis-nous dans ces œuvres, conduis-nous dans la vérité par ton Saint-Esprit, nous t'en supplions afin que toute gloire te soit rendue ici-bas et pour l'éternité. Amen. Amen.